todos os indivíduos privados da sua liberdade devem ser tratados com humanidade e com respeito da dignidade inerente à pessoa humana.
Jednostka ma prawo do życia, wolności i do pewności swojej osobowości.
ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ സുരക്ഷിതത്വത്തോടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.
L'enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d'une éducation et d'une formation appropriée pour lui permettre de mener une vie pleine et décente dans la dignité.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Everyone is equal in the eyes of the law and has the right to equal protection by the law.
Die Familie ist das natürliche Element und das Fundament jeder Gesellschaft und hat das Recht auf Unterstützung vom Staat und von der Gesellschaft.
Rodina je prirodzeným prvkom a fundamentom spoločnosti a má právo na ochranu štátom.
Alle Menschen wurden frei und gleich in Wahrheit und Recht geboren. Sie zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Bonjour Adeline.
Bonjour Jean-Marie.
Eh bien, ravi de vous retrouver sur les ondes de FM+, pour cette dernière émission de l'année 2016. Donc, on va vous présenter notre campagne annuelle habituelle de décembre qui s'appelle « 10 jours pour signer ». Alors, en quelques mots, 10 jours pour signer, qu'est-ce que c'est ?
Oui, il faut signer quoi et pour qui ?
Alors, je te réponds tout de suite. Pour les persécutés, les emprisonnés, les torturés qu'on demande de défendre. Donc, ça a lieu du 2 au 11 décembre. Et donc, Amnesty International France organise 10 jours pour signer. Mais c'est un événement mondial qui est relayé dans beaucoup de pays où il y a des sections d'Amnesty. Donc, c'est une mobilisation en faveur des personnes dont les droits sont violés. Autour du 10 décembre, qui est, Adeline, tu te dis pourquoi ? La journée
des
droits
de l'homme.
Voilà, c'est très bien. Donc pendant 10 jours, 10 situations de personnes à défendre pour envoyer un message clair. Les gens sont prêts à résister aux abus du pouvoir où qu'ils aient lieu. Il est de notre devoir de faire la lumière sur les injustices, de sorte que les gouvernements ne puissent pas les ignorer. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré Camille Blanc, notre nouvelle et récente présidente d'Amnesty International. Donc, on demande à chacun et chacune d'entre vous d'interpeller les autorités par l'envoi de lettres, de pétitions, par des messages sur les réseaux sociaux. Il s'agit de défendre aussi bien des victimes de torture, de discrimination, de répression de la liberté d'expression que d'exactions commises par les entreprises. Camille Blanc ajoute « Amnesty International demande aux gens de faire de la lutte contre l'injustice une affaire personnelle et il y a peu de moyens d'action plus directs que de prendre son stylo et d'écrire une lettre à une personne courageuse pour la soutenir ou d'interpeller les autorités pour sa protection. » Voilà. On vous dira tout à l'heure que vous pouvez le faire aussi en signant des pétitions sur les stands d'Amnesty dont on vous donnera les coordonnées. Voilà, donc il y aura des rendez-vous à Paris, dans la banlieue parisienne, aussi dans les villes. Et il y a des personnalités qui soutiennent 10 jours pour signer, comme l'artiste Ai Weiwei, l'artiste chinois qu'on vous a déjà présenté. Hein.
Qui lui-même a été victime et qui avait
voilà,
été soutenu par
Amnesty. Absolument. Hein. Et on a le soutien du footballeur Patrick Mboma, du plasticien et artiste de rue Jalouse. Et pour la seconde fois, la comédienne et humoriste Sophia Aram a prêté sa voix pour la réalisation des spots radio que vous avez pu entendre, que vous pourrez encore entendre, pour les 10 jours pour signer. Voilà, bah le temps est venu de faire la présentation des 10 cas, donc on va alterner. Donc, Adeline, tu nous présentes les deux
voilà,
premiers.
Voilà, donc les, absolument, qui sont donc, on rappelle, soit des défenseurs des droits humains, soit des prisonniers d'opinion. Alors, parmi les 10 personnes qu'Amnesty a choisi de mettre en lumière cette année, nous avons une femme, Maxima Acuña, une paysanne militante du Pérou, qui vit à Cajamarca, au nord du Pérou. Elle vit avec sa famille sur des terres qui appartiennent, enfin, sur où est située une des grosses compagnies minières. Et ces compagnies minières, évidemment, souhaitent récupérer les terres pour son profit et ont voulu expulser les familles comme celle de Maxima Acuña qui y vivait. Elle a donc engagé une bataille juridique pour conserver ses terres et depuis, elle a été victime d'actes d'intimidation et de répression. La police locale l'a arrêtée, l'a frappée, ainsi que ses enfants. Ils ont détruit sa maison, ils en ont démoli une partie et des gardes armés de l'entreprise donc de l'entreprise minière, sont venus pour détruire toute sa récolte. Et d'ailleurs, son action lui a valu de recevoir un prix qui s'appelle le prix Goldman, qui est le prix le plus prestigieux dans le domaine de l'environnement. Une autre femme, qui est donc canadienne, celle-là, et alors en fait, c'est pour un groupe, c'est pour la lutte pour les peuples autochtones de Peace River Valley au Canada, qui lutte contre un projet de barrage pour préserver les terres ancestrales qui les font vivre. Hein, c'est un peuple autochtone au nord-ouest du Canada qui avait signé un accord avec le gouvernement censé protéger leur mode de vie. Mais il n'y a pas très longtemps, les autorités canadiennes en fait, ont autorisé la construction d'un méga barrage hydraulique dans cette vallée. Et donc, bien entendu, cette construction va entraîner l'inondation d'un des derniers endroits où les peuples ont encore accès à leurs terres et à l'eau, surtout, qui est vitale pour leur culture. Voilà. Le Canada donc renie ses engagements, qu'il a pris quand même il y a extrêmement longtemps. Et donc, ce peuple autochtone lutte pour arrêter ce projet de barrage.
Je continue avec un cas emblématique, faut-il vous le présenter encore, Edward Snowden, l'Américain.
Oui.
En communiquant des documents des services secrets américains à des journalistes, Edward Snowden, donc ancien consultant de l'agence de sécurité NSA, a révélé l'ampleur de la surveillance de masse exercée par les gouvernements. Ces révélations ont eu le mérite d'ouvrir un débat public mondial sur le droit à la vie privée face aux agissements des États. Elles ont obligé États et entreprises privées à rendre des comptes aux citoyens sur la manière dont les données privées sont protégées. Pourtant, Edward Snowden reste accusé d'espionnage, de vol de secrets d'État et risque des dizaines d'années de prison si jamais il retournait aux États-Unis. Il faut rappeler qu'il vit toujours en exil forcé en Russie et sa situation reste très précaire puisque je crois qu'au début de l'année 2017, c'est 3 ans pas de captivité, mais d'exil volontaire
d'exil
en Russie,
absolument.
Risque d'être remis en cause et il n'y a pas de situation qui est très établie pour lui. Hein. Voilà, on va passer à l'Afrique. Je vous présente Annie Alfred. Annie Alfred, elle a 10 ans. C'est une petite môme de 10 ans qui souffre d'albinisme. Donc, c'est un pays, le Malawi, où, comme des milliers d'autres personnes atteintes de cette pathologie, Annie risque d'être pourchassée et tuée. Parce qu'en effet, au Malawi, donc petit état d'Afrique, certaines croyances traditionnelles attribuent aux personnes albinos des pouvoirs magiques. Donc la vie d'Annie est constamment menacée, et pas seulement par les gangs criminels. Dans certains cas, ce sont même les proches des personnes atteintes de cette maladie qui sont responsables des enlèvements, espérant revendre à prix d'or les organes de leurs victimes. Mmh, voilà, c'est absolument abominable. On reste au Cameroun où il y a un deuxième cas, c'est celui de Ivo Fomuzo Fay, condamné à 10 ans de prison pour l'envoi d'un SMS sarcastique. Je dis bien 10 ans de prison.
Pour un SMS?
Oui, et il était sur le point d'entrer à l'université quand un simple texto donc, a bouleversé le cours de sa vie. Après avoir transmis un message humoristique et sarcastique affirmant que même le groupe armé Boko Haram ne l'embaucherait pas s'il échouait à ses examens, donc ça, hein, tu vois, oui. Si c'est grave, hein,
oh là là.
Ivo et les amis à qui il a fait suivre ce message ont tous été arrêtés. Et le 2 novembre dernier, les 3 amis ont été condamnés à 10 ans de prison pour non-dénonciation d'actes terroristes. Et lui-même aussi a été condamné à 10 ans de prison, bon, ce qui est absolument ahurissant quand on y réfléchit. Hein.
Eh bien, décidément.
Adeline.
Alors, effectivement, c'est vrai que parfois, on oublie à quel point des choses qui sont vraiment
mineures
peuvent, dans certains pays, conduire des gens en prison. Alors voilà, par exemple, en Azerbaïdjan, Bayram Mamadov et Gilyas Ibrahimov, qui, eux, sont emprisonnés et risquent 12 ans de prison. Alors, eux, ce n'est pas un SMS, c'est un graffiti. Ils ont tagué un petit graffiti sur la statue du père de l'actuel chef de l'État. Parce que non seulement il y a des statues du chef de l'État, mais il y a aussi celui de son père, donc Ilham Aliyev.
C'est une dynastie. Hein,
et voilà. Et ce petit graffiti souhaitait une joyeuse fête de l'esclavage. C'était le 10 mai, c'était le jour de l'anniversaire de l'ancien président. Donc ces deux jeunes hommes, pour ce petit graffiti, ont été arrêtés, ont été torturés, ont été obligés de signer une confession selon laquelle ils détenaient de la drogue, ce qui n'avait absolument rien à voir avec l'acte qu'ils avaient fait. Et donc Gilyas a été condamné à 10 ans de prison et Bayram attend son procès. En Indonésie, alors là aussi, 15 ans de prison pour avoir brandi un drapeau indépendantiste, Johan Teterisa. C'est un professeur des écoles, défenseur des droits humains. Alors lui, ça fait plus de 10 ans qu'il est en prison parce que en 2007, il a brandi un drapeau régional qui s'appelle le Bénin Raja lors d'une manifestation pacifique. Ils ont donc été arrêtés, fouettés, torturés, emprisonnés. Et il a été condamné d'abord à une peine de réclusion à perpétuité, puis finalement ramené à 15 ans. Donc voilà des cas de personnes qui manifestent de façon pacifiste et qui se retrouvent emprisonnées de façon épouvantable.
Vous êtes toujours sur FM+, reprise de notre émission. Donc Adeline, on était en train de présenter les cas emblématiques de défenseurs des droits de l'homme qui sont menacés et que Amnesty va défendre dans sa campagne 10 jours pour signer.
Absolument. Alors on vous a parlé de plusieurs pays. Maintenant on va vous parler de la Turquie et d'une avocate qui s'appelle Eren Keskin, qui est une avocate et une ancienne journaliste qui est constamment victime de harcèlement de la part du gouvernement. Et en 2014, elle a été condamnée pour insulte à l'État turc pour avoir parlé du meurtre d'un enfant de 12 ans par des membres de l'armée turque. Cette militante, elle a déjà été plus de 100 fois traînée devant les tribunaux. Donc, elle risque de nombreuses années de prison. Et donc, elle fait partie des 10 personnes, effectivement, mises en lumière par Amnesty pour la défendre et pour demander sa libération.
Bien. En Égypte, Shawkan, c'est le surnom de Mahmoud Abu Zaid. C'est un prisonnier d'opinion détenu pour avoir simplement exercé son travail de photojournaliste. Le 14 août 2013, le jour où il a été arrêté au Caire, Shawkan prenait des photos de la répression de la manifestation de Rabah al-Adawiyah par les forces de sécurité égyptiennes. Plus de 700 personnes, je dis bien 700, ont été tuées lors de ce seul sit-in. Shawkan est en détention provisoire depuis plus de 3 ans. Il fait face à des accusations montées de toutes pièces et ne reçoit pas les soins de santé dont il a actuellement besoin. Enfin, dernier cas, celui de Zeynab Jalalian, iranienne, militante des droits de la minorité kurde, condamnée à perpétuité au terme d'un procès injuste. Elle a 34 ans. En 2008, elle a été incarcérée pour ses liens supposés avec la branche militaire d'un groupe d'opposition kurde. C'est cependant sur la base d'aveux extorqués sous la torture, comme souvent en Iran, qu'elle a été jugée au cours d'un procès bâclé. Aucune preuve ne relie Zeynab Jalalian à des activités armées et elle n'a jamais été autorisée à communiquer avec un avocat. Elle souffre actuellement de graves troubles oculaires nécessitant une intervention chirurgicale par un spécialiste, mais ne reçoit pas les soins médicaux dont elle a besoin. Voilà, donc on vous a présenté ces cas. Ce qu'on peut vous dire, c'est que votre action, elle porte ses fruits, puisque l'année dernière, il y a eu un certain nombre
qui ont vu leur sort s'améliorer quand même.
Donc je peux citer très rapidement Fioe Aung au Myanmar, secrétaire général d'un des syndicats étudiants les plus importants de la Birmanie, le Myanmar, donc. Arrêté en 2015 et libéré le 8 avril 2016. Et puis il y a Albert Woodfox aux États-Unis.
Qui a enfin été libéré.
Oui, qui a été très très longtemps emprisonné. Avec le soutien d'Amnesty, de la mobilisation internationale, libéré en février 2016, après des décennies d'acharnement carcéral. Deux derniers cas, Adeline.
Alors vous vous souvenez peut-être, on vous en avait parlé, de Yesenia Armenta au Mexique, une jeune femme qui avait été arrêtée en 2012, qui avait été torturée et qui avait signé des aveux les yeux bandés, et qui a été libérée donc en juin 2016 suite à vraiment une très très grande mobilisation et à ses 10 jours pour signer. Et Fred et Yves de la République démocratique du Congo, qui avaient aussi été arrêtés pour avoir participé à une manifestation pacifiste. Donc on voit bien quand même que la pression de toutes les personnes, tous ces courriers qu'on envoie, ces mails, de tous ces sympathisants, permet quand même de libérer ou d'améliorer le sort de ces personnes. Donc on vous invite vraiment à participer à cette campagne 10 jours pour signer.
Alors comment on peut participer, Adeline ?
Alors on peut d'abord aller sur le site d'Amnesty France.fr, ou le site d'Amnesty International, et donc signer ces pétitions en ligne. On n'est pas obligé de signer pour toutes les personnes, on peut lire sur notre site le cas de chaque personne, signer pour elle. À Montpellier, nous avons le 10 décembre, nous avons une journée où nous serons présents à trois endroits différents.
Toute la journée, voilà.
Toute la journée. Alors, près de la place de la Comédie, à la Gazette Café, rue Lebas.
Et également à Jacou, au Parc Bocaux, nous serons présents à l'occasion du marché de Noël.
Voilà.
Ce jour-là.
Vous pouvez nous rencontrer et venir discuter avec nous et venir signer pour ces personnes. Nous espérons que l'année prochaine, on pourra également vous donner des bonnes nouvelles pour elles.
Voilà. Et d'avance, on vous remercie. Vous êtes toujours sur FM+, pour l'émission mensuelle d'Amnesty International. Voilà, on vous a présenté les cas des 10 jours pour signer, mais il y a d'autres actions à faire, peut-être, Adeline, et des cas à nous présenter.
Voilà, et puis des petites informations à vous donner. Alors, comme en ce moment, l'actualité nous parle beaucoup de Cuba, nous, à Amnesty, on voulait quand même rappeler quelque chose. On veut rappeler qu'à Cuba, il y a des gens qui défendent les droits de l'homme. Il y a une association, on va dire, qui s'appelle les Dames en Blanc, hein, qui est un peu une réplique de ce qu'avaient fait les maires de la place de mai
en Argentine.
En Argentine. Voilà, et cette association, tous les 15 décembre, c'est-à-dire bientôt, elle se rassemble, puisqu'elle n'a pas le droit de manifester, pour les droits de l'homme. Et l'année dernière, il y a eu plus de 1500 arrestations, soit des arrestations préventives, soit des arrestations suite à ce rassemblement. Donc, puisqu'on nous parle beaucoup de l'actualité en ce moment à Cuba, nous espérons et nous souhaitons aux Dames en Blanc et à tous les militants des droits de l'homme à Cuba que cette année, ils puissent se rassembler pacifiquement et exprimer ce qu'ils ont à dire. Nous, Amnesty rappelle que la liberté d'expression, d'association et de circulation continue à être soumise à de restrictions draconiennes. Hein. Il y a on recense des milliers de cas de harcèlement à l'égard des gens qui sont détracteurs du régime ou qui sont simplement, comme on a pu voir tout à l'heure dans d'autres pays, qui font des graffitis, qui font des SMS. Nous rappelons par exemple qu'un graffeur qui a passé un an en prison pour avoir inscrit sur un cochon, un petit cochon de lait, le nom de Fidel.
Ah
voilà,
ouais.
Hein, il a passé un an en prison.
Ça fait cher. Hein.
Voilà, ça fait cher, effectivement, le graffiti. Donc voilà, c'était un petit rappel par rapport, puisque nous sommes dans cette actualité actuellement. Et donc, je répète, nous souhaitons bonne chance aux défenseurs des droits de l'homme pour les prochaines semaines à venir.
Bien, donc je voudrais vous faire part d'un communiqué de Reporters sans frontières, donc nos amis de Reporters sans frontières, qui étaient le 8 novembre dernier au palais de justice d'Istanbul pour l'ouverture du procès d'Erol Anderoglu, représentant de Reporters sans frontières en Turquie. Donc lui est la présidente de la Fondation pour les droits de l'homme et un autre écrivain turc de renom sont accusés de propagande terroriste pour avoir pris part à une campagne de solidarité avec Quotidien kurde, rédacteur en chef du journal, dont le rédacteur en chef du journal paraît à leur côté, comparé à leur côté, pardon. Hein. Donc c'était le rendez-vous que RSF attendait avec appréhension depuis le mois de juin dernier. Les accusés ont invoqué l'exercice légitime de la liberté d'expression, bien malmenée en Turquie. Hein. Ils ont courageusement refusé la possibilité que leur peine soit commuée en sursis s'ils étaient reconnus coupables. Une délégation de plusieurs sections européennes de Reporters sans frontières était présente à l'audience pour soutenir les accusés. Et donc, Reporters sans frontières s'interroge jusqu'où ira Erdogan, le président turc. Il est temps de dire non à cette répression qui s'abat sur la presse dans un pays toujours officiellement candidat à l'adhésion à l'Union européenne et défendre le pluralisme en Turquie. Est plus que jamais nécessaire à l'heure où les derniers médias critiques sont liquidés les uns après les autres et où plus d'une centaine de journalistes croupissent en prison. Le procès reprendra le 11 janvier 2017 à Istanbul et Reporters sans frontières l'affirme, nous y serons.
Absolument, et nous suivrons cette affaire de près, parce que c'est vrai qu'en Turquie, les choses
vont de plus en plus mal. Pas seulement pour les journalistes, d'ailleurs.
Absolument, pas seulement, elles sont très très inquiétantes. Alors, un autre pays maintenant où les choses vont effectivement aussi, on a l'impression, de plus en plus mal, c'est la Birmanie. On vous a parlé souvent de cette minorité qui s'appelle les Rohingyas.
Oui.
Voilà, c'est une minorité musulmane en Birmanie qui sont réprimées depuis très longtemps, qui sont considérées comme un groupe à part, qui n'ont pas les mêmes droits et qui, par la loi de 1982, ont même été privées de nationalité. Donc en fait, ils n'ont pas d'état civil.
Ouais.
Voilà. Alors ils avaient en échange une espèce de carte particulière, une carte d'identité, qui leur ont été retirées l'année dernière, puisque l'année dernière il y avait eu des élections. Donc comme ça, au moins, le gouvernement était sûr qu'il ne pourrait pas voter.
Oui,
bon,
bien sûr.
Voilà.
C'est commode.
c'est commode. Mais alors, au-delà de ça, l'ONU, ce qui est assez rare, a tiré la sonnette d'alarme en disant que la Birmanie avait entrepris une campagne de nettoyage ethnique. Alors c'est quand même un mot très fort,
ouais, c'est fort
parce que
hein,
quand l'ONU se permet de dire ça, c'est quand même qu'elle a des informations extrêmement fiables. Donc elle sait ça également parce que les Rohingyas, il y a des milliers de Rohingyas qui en ce moment sont en train de fuir au Bangladesh et qui donc racontent ce qui leur est arrivé. Alors, par exemple, un témoignage de Mossamat Abiba, une jeune femme de 20 ans. Lorsque l'armée a attaqué notre village, ils ont mis le feu à la plupart des maisons, tué de nombreuses personnes, dont notre père, violé les jeunes filles, emmené des garçons, notamment des jeunes entre 9 et 12 ans, et on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Plus de 50 femmes et filles de notre village ont été torturées et violées. John McKissick, qui est donc le directeur du HCR, du Haut Commissariat des Nations pour les Réfugiés, a estimé sur la BBC que donc ces actes s'apparentaient à un nettoyage ethnique sur une base fiable de témoignages de réfugiés. Il faut savoir qu'il y a plus de 30 000 personnes, 30 000 Rohingyas, qui ont été déplacés à cause de ces violences. Donc énormément de gens, des milliers de gens disparus. Donc, par exemple, ces jeunes garçons que l'armée enlève et qui sont portés disparus, dont on ne sait pas ce qu'elle fait. La communauté internationale a déjà commencé à faire pression de façon modérée en demandant qu'au moins ils puissent s'enfuir, parce qu'en plus, ils ne peuvent pas partir. On a vu l'été dernier des bateaux avec des réfugiés Rohingyas qui s'en allaient. Voilà, donc la communauté internationale demande au moins à la Birmanie d'ouvrir sa frontière pour éviter une crise humanitaire. Alors évidemment, il y a des milliers de réfugiés qui sont bloqués à côté du Bangladesh. Le gouvernement bangladesh dit que lui ne peut pas accueillir tous ces réfugiés. Donc ces gens-là sont dans une situation inextricable, victimes de violences, victimes de disparitions. Et ils ne peuvent rien faire. Alors, on rappelle quand même que Madame Aung San Suu Kyi, donc le prix Nobel de la paix, qui est dans mon pouvoir depuis plusieurs mois, eh bien, a fait dire par son porte-parole que ces accusations étaient infondées et qu'elle les contestait.
Ah oui, carrément.
Carrément. Mmh. Donc, c'est quand même un peu dommage de voir qu'une personne pour qui de nombreuses organisations, dont Amnesty, ont lutté pour sa libération... Ouais. Aujourd'hui, finalement, rejoint la même position que les militaires birmans. Donc, nous alertons, il y a aussi une pétition sur le site d'Amnesty pour demander l'ouverture des frontières et que les Rohingyas puissent partir. Et puis, bien entendu, pour qu'ils puissent être traités comme des personnes humaines qu'ils sont. Il faut rappeler que, justement, on parlait tout à l'heure de Reporters sans frontières, que les journalistes étrangers... n'ont pas accès aux zones où sont tenus à signer à résidence, en quelque sorte, les Rohingyas. Voilà, donc c'est une situation absolument catastrophique et dont on vous reparlera. Et il faut absolument faire pression sur la Birmanie et sur Madame Aung San Suu Kyi pour qu'elle s'occupe de ces populations.
Très bien, voilà. Bah, écoutez, on vous remercie pour votre écoute. On termine avec vous cette année 2016 en vous souhaitant, malgré tout, bien que le monde marche pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire, on vous souhaite quand même de bonnes fêtes à tous.
Absolument, et de très bonnes nouvelles pour l'année 2017.
Pour l'année 2017, merci, au revoir. Au revoir.
Todos os indivíduos privados da sua liberdade devem ser tratados com humanidade e com respeito da dignidade inerente à pessoa humana.
Noska ma prawo do życia, wolności i do pewności swojej osobowości.
Ilo tela lava condane e a sureshat tordum só ante tordum jevika lava gashamandana nende vishwasa.
L'enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d'une éducation et d'une formation appropriée pour lui permettre de mener une vie pleine et décente dans la dignité.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Everyone is equal in the eyes of the law and has the right to equal protection by the law.
Die Familie ist das natürliche Element und das Fundament jeder Gesellschaft und hat das Recht auf Unterstützung vom Staat und von der Gesellschaft.
Rodina je prirodzeným prvkom a fundamentom spoločnosti a má právo na ochranu štátom.
Alle Menschen wurden frei und gleich in Wahrheit und Rechte geboren. Sie zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.